Je peux pas être compétitif si je ne protège pas mes frontières.
Bien. Parce qu'aujourd'hui,
l'immigration est très, est très importante en France.
Trop importante en France. On est contre des gens chez nous alors que nous avons 5 millions de chômeurs, alors que nous avons 8 millions de pauvres, alors que nous avons 1,2 million de foyers qui attendent un logement social. Bon sang, occupons-nous d'abord des nôtres.
La gauche est achetée par Moscou. Par contre, jamais. La droite est achetée par la fenêtre, on savait déjà ça. En plus, la gauche en plus. Voilà, merde. Un bon discours politique par deux choses très importantes. Un bon début, une bonne fin. Et si possible, que les deux soient plus près possible l'un de l'autre. Française, français, voir deux choses, un bon travail, une bonne santé. Vous avez une bonne santé, j'ai un bon travail. Ça va s'arranger.
On nous a enlevé presque tous les droits. Il y a du chômage. Les gouvernements, ils profitent des jeunes. C'est pas nous qui ont la parole. C'est les banquiers et les politiques. Ils font rien pour nous. Ils nous enlèvent tout.
Personne ne le sait. Pourquoi ? Parce que je pense que si on connaissait ce chiffre, on serait tellement horrifié de voir que les multinationales payent si peu d'impôts.
On les appelle les indignés. Le mouvement a débuté en Espagne. Depuis quelques jours, une cinquantaine de jeunes sont rassemblés pacifiquement place de la Comédie. Plusieurs policiers sont intervenus pour dégager le campement improvisé.
Et bonsoir, bonsoir, vous êtes bien sur Radio Canu, la plus rebelle des radios. Il est 19h12 et c'est l'heure du Canu Info, encore une fois avec un petit peu de retard. Alors ce soir, on va commencer par essayer de faire une petite interview par téléphone de madame Gilda, que je vais tenter d'appeler tout de suite. Madame Gilda, qui est donc une travailleuse du sexe et porte-parole de l'association Stras. Stras, c'est le syndicat parisien des travailleuses du sexe. Donc on va l'appeler tout de suite, juste le temps que je compose le numéro, et nous allons être en relation avec cette personne qui va nous parler de l'événement qui aura lieu la semaine prochaine, c'est-à-dire les rencontres internationales des travailleuses du sexe, voilà, qui fête ses 40 ans. Donc on essaye tout de suite, voir si ça marche. Mais vu que j'ai jamais fait l'interview téléphonique, on va voir si ça a marché, c'est pas gagné. Allô, allô. Non, on dirait que ça ne marche pas. Allô, allô. Allô. C'est assez étrange. Bon bah, on essaiera peut-être tout à l'heure d'appeler Madame Gilda. Je pense qu'on y arrivera juste après. Donc on va débuter sur Monsanto finalement, parce que c'est une édition un peu spéciale Monsanto, ce journal. Pourquoi on va parler de Monsanto? Parce qu'il y a eu une manifestation le 23 mai dans toute la France et même dans le monde entier, donc samedi dernier. Donc Monsanto, je rappelle, c'est une grande multinationale américaine, et donc dans plus de 50 pays, les populations, les citoyens ont manifesté. On était des dizaines de milliers en France, 2000 à Lyon, 3000 à Paris, et nous on était à Grenoble ce jour-là, et on était à peu près 800 à Grenoble. Donc c'était une marche très festive, une marche conviviale, et on a pris du son justement. Et on a fait un petit reportage qu'on va vous passer tout de suite. Et voilà. Ah non. Bonne écoute. Alors voilà, je suis à la marche festive contre Monsanto à Grenoble. Il y a une très très bonne ambiance, c'est très festif. On entend notamment la batucada derrière. Juste devant moi, il y a un tracteur. Oui, un tracteur qui mène le cortège en fait, avec un énorme drapeau pour une agriculture paysanne et une tête de mort à la place du haut de Monsanto. Pourquoi vous avez décidé d'emmener le tracteur jusqu'à Grenoble aujourd'hui?
Déjà, c'est une manifestation qui est organisée par des paysannes et des paysans.
Et aussi, quelque part, Monsanto s'attaque à l'agriculture. Et nous, on promeut une autre forme d'agriculture, une agriculture paysanne qui soit plus autonome, plus respectueuse des hommes et de l'environnement.
Parce que c'est quoi Monsanto? C'est quoi le risque justement pour l'agriculture, enfin les dangers qui pèsent sur l'agriculture avec Monsanto?
Monsanto, c'est la destruction de l'environnement à travers les produits chimiques vendus, mais aussi les semences OGM. Mais c'est aussi le fait que les paysans soient inféodés à cette grande firme car ils ne peuvent plus être autonomes dans leur pratique. Ils deviennent dépendants des semences et des produits chimiques vendus par cette firme. Et du coup, ils deviennent des esclaves comme c'était avant. Des cerfs, voilà, cherchez-vous.
Est-ce que tu saurais dire ce qui t'indigne le plus aujourd'hui dans l'agriculture productiviste, le modèle majoritaire aujourd'hui d'agriculture?
C'est le fait que ce secteur se capitalise en fait. Et que du coup, autant à une concentration des terres aux mains de quelques-uns et à des fermes qui détiennent beaucoup de capitaux en fait, qui ont de plus en plus de matériel, de bâtiments, de terres, et tout ça au détriment des emplois en fait. Les fermes grossissent, mais il y a de moins en moins d'emplois dans l'agriculture.
Et du coup, il y a de moins en moins de paysans et d'agriculteurs. Et est-ce qu'on peut espérer qu'une marche comme ça ait un impact?
Pour moi, le premier résultat, c'est justement de parler de ce problème-là qui est très méconnu. Peu de gens savent qu'il y a de moins en moins de paysans en France et que c'est pas un hasard, c'est des choix politiques en fait. Et que la politique de Monsanto, elle y contribue aussi. Si sur chaque produit qu'on a acheté, on savait ce qu'il y avait dedans, et ben déjà l'agriculture chimique reculerait.
Et je suis venu ici pour bien dire que je ne suis pas à l'aise à avoir des plantes, changer de l'intérieur, qui peut nous intoxiquer du fond du corps. Et j'explique que c'est pas du tout bien. OGM, c'est pas du tout bien.
Pourquoi ça te gêne que ces géants tels que Monsanto justement fassent ce qu'ils veulent?
Parce qu'on a un peu l'impression qu'ils ont la main mise aujourd'hui sur tous les enjeux financiers et avec les lobbies industriels. C'est un peu difficile de faire entendre sa voix quand on est juste population qui subit ce qui se passe, que ce soit en France, en Europe ou dans les pays un peu plus pauvres. Aujourd'hui, ils n'ont plus le choix des semences qu'ils peuvent planter. Enfin, on a l'impression qu'on perd vraiment le pouvoir. Ouais, voilà, on a l'impression qu'on subit vraiment et qu'on ne peut plus rien faire contre ça, alors qu'il suffit de se mobiliser. Et ça donne de l'espoir dans le sens où c'est international, il y a plein de rassemblements de partout, donc on a envie de croire que ça donnera quelque chose après. À voir. À voir. J'ai envie d'y croire en tout cas, on verra.
Ouais, je m'appelle Pascal, j'habite à Chambéry.
Et pourquoi tu es venu manifester aujourd'hui à Grenoble contre Monsanto?
C'est très important pour mes enfants, pour moi c'est presque un peu tard, mais pour mes enfants, et je pense qu'il faut qu'on change un peu le monde qu'on a construit il y a 30 ou 40 ans, et ça peut être un début d'un phénomène d'une ampleur plus importante dans les prochaines années, parce qu'il en faudra bien plus qu'une ou deux manifestations, je pense, pour changer le cours des choses.
Monsanto, c'est une multinationale qui a les moyens d'être influente à tous les niveaux, mondial, européen, national, local, y compris au niveau des paysans eux-mêmes, en arrivant à leur vendre tout et n'importe quoi depuis hyper longtemps. Donc c'est un acteur parmi d'autres de ce qui se passe aujourd'hui et qui fait que je ne sais plus quel est le pourcentage des nappes qui sont polluées. Moi, je suis apiculteur, donc des abeilles qui meurent par dizaines de milliers, mais on le voit, quoi. Je veux dire, c'est des fois on entend parler plein de choses à la radio, à la télé, dans les journaux, et on se dit oh là là, mais ça doit être terrible. Moi, par exemple, sur l'apiculture, je le vois. Je veux dire, c'est très clair. Voilà, Monsanto est un des acteurs. Mais pour moi, je dis, on pourrait marcher aujourd'hui pour Total, on pourrait marcher pour Areva, on pourrait marcher pour tous ces géants-là qui sont devenus tellement géants que leur emprise sur la conduite globale de la société fait que c'est eux qui dirigent, et de moins en moins, et les politiques et nous. Même si je suis absolument persuadé que tout ça aura une fin, et c'est pour que ça ait une fin le plus vite possible que je mets un pied devant l'autre aujourd'hui.
Très bien. Et en plus, toi qui es apiculteur, la disparition des abeilles, c'est problématique, ça?
Alors, c'est vrai, c'est un vrai problème pour l'agriculture, parce qu'on sait que ce sont des pollinisateurs absolument indispensables pour les arbres fruitiers, pour les légumes, pour etc. Mais la disparition des abeilles, c'est ce que nous, êtres humains, on voit, alors qu'on ne voit pas que, par exemple, on peut traverser maintenant la France sans avoir un moucheron qui se colle sur le pare-brise. Et ça, c'est mille fois plus grave. J'exagère, un moucheron qui se colle sur le pare-brise. Mais moi, je me rappelle quand on partait en vacances il y a 30 ans, ben, je veux dire, avec mes parents, ben, il y avait plein d'insectes sur les pare-brises.
Maintenant, là, ils désertent, ça.
Alors que maintenant, il n'y a plus. Je veux dire, la biodiversité a pris un tel coup. L'entomofaune, c'est-à-dire tout ce qui concerne les insectes, ont pris un tel coup que les insectes naturellement pollinisateurs, donc pour tout ce qui est la flore sauvage, ont pris un coup dans l'aile, si je puis dire, mais absolument monumental.
Alors, je suis avec Céline qui transporte un drôle de caddie, de chariot, je sais pas comment on peut dire, avec une boîte en bois, et dedans il y a des graines, justement. Et est-ce que tu peux expliquer un peu ce que c'est et à quoi ça sert?
Donc en fait, ce sont des graines déposées dans cette boîte, ça s'appelle une graine au tech, donc où tous les habitants de notre village, les adrènes, viennent déposer les graines qu'ils ont en trop, qu'ils ont sélectionnées dans leur jardin, et après ils peuvent se servir, en prendre d'autres et faire ainsi un échange de graines pour un peu prendre plus d'autonomie, reprendre en main en fait la question des semences. Et
ces échanges, ils peuvent avoir lieu n'importe où, quoi, sur une manifestation, dans une bibliothèque, au coin d'une rue.
C'est la première fois qu'on sort notre grainothèque dans cette carriole. Mais effectivement, le principe, c'est un peu... même si c'est mieux que ce soit fait beaucoup au niveau local, puisque c'est pour faire pousser des variétés locales. Voilà, mais le principe, c'est un maximum d'échanges libres.
Et je suppose qu'il y a là-dedans, il n'y a pas d'OGM dans toutes ces graines.
OGM interdit, bio obligatoire, et si possible local, et voilà.
Et on peut trouver des graines de quoi, par exemple, dans ta granothèque?
Alors en ce moment, les jardiniers sont pas mal passés par là, parce que c'est la saison qui veut ça, donc on en a un peu moins, mais on a du physalis, beaucoup de potiron, on a des œillets d'Inde, on a du coriandre, et des haricots magiques. On appelle ça des haricots magiques, en fait c'est les haricots aram de Michel, elle s'appelle, et qui c'est vraiment des adrènes. Ça fait des années, ça fait 20 ans que ça pousse dans son jardin, de son grand-père et tout ça, et c'est des grosses graines comme ça, j'en ai même deux dans la poche.
Oh, c'est magnifique.
Et ça fait des super haricots aram. Voilà, il y en a d'autres, faudrait regarder. Hein.
Et ça marche bien, ces échanges libres, du coup?
Oui, ça fait un an, c'est la première saison en fait, mais ça a bien pris dans notre village. Voilà.
Et ça se fait dans beaucoup de villages en France, tu crois?
Je sais qu'il y en a une à Grenoble aussi, à la grande bibliothèque de Grenoble.
Mais pourquoi l'avoir emmenée ici alors, à la marche contre Monsanto?
On trouvait que ça allait très bien dans le thème, donc voilà, pour reprendre en main la question des semences et squeezer Monsanto, on va dire, quoi, pour se passer, reprendre en main notre avenir.
Reportage sur la marche à Grenoble contre Monsanto. Mais qu'est-ce que Monsanto, en fait? J'ai dit que c'était une multinationale américaine, ça on le sait à peu près tous, mais ce qu'ils font exactement, bah on l'oublie ou on le sait moins. Du coup, Raphaël, tu vas nous éclairer un petit peu sur cette question.
Bah oui, je vais essayer. Donc c'est une multinationale certes, mais c'est surtout la plus grosse multinationale d'agroalimentaire mondiale, et qui a commencé à produire parce que c'est une très très ancienne entreprise, mais depuis les années 70 elle a commencé à produire énormément d'herbicides comme le Roundup, dont on reparlera un petit peu après, des pesticides, et dans ces dernières années énormément d'OGM, donc OGM complémentaire du Roundup. Pourquoi complémentaire? Juste parce que en fait, les OGM qui sont commercialisés, ils sont faits de sorte à ce qu'ils soient résistants en fait au Roundup. Alors maintenant, on peut se demander comment Monsanto il s'implante dans la législation des pays, parce que c'est une multinationale énorme qui a un poids énorme, une influence énorme même d'un point de vue politique, et qui peut avoir une énorme influence dans tous les accords commerciaux, etc. On va reparler de TAFTA aussi tout à l'heure. Donc des gens pourraient dire que l'arme majeure de cette entreprise, c'est son réseau. Dans les administrations, elle a un immense réseau. Donc non seulement dans sa stratégie de contrôle de l'information, mais aussi dans la gestion des situations de crise. Donc Monsanto, il possède des alliés haut placés au sein de l'Agence de protection de l'environnement, de la Food and Drug Administration ou encore du ministère de l'Agriculture aux États-Unis. Et grosso modo, en gros, Monsanto, il a comme stratégie d'appâter des membres haut placés du secteur public dans le secteur privé et en échange d'un poste grassement rémunéré, comme toujours. Donc dès les années 70-80, cette stratégie, elle a très bien marché pour eux, et encore maintenant d'ailleurs. On pourrait citer par exemple avant, dans les années 80, Michael Cantor, c'était le chef de campagne de Bill Clinton. Et ça a été un personnage influent en fait dans le milieu des biotechnologies, lorsqu'il était secrétaire d'État au commerce pour le camp démocrate. Puisque justement, après la fin du mandat de Clinton, il est devenu membre du conseil d'administration de Monsanto. Et voilà, un autre cas par exemple, excusez-moi. Un autre cas, par exemple, c'est celui de Donald Rumsfeld, qui est un ancien membre du comité directeur de Searle Pharmacy. C'est une firme qui fut justement achetée par Monsanto pour devenir sa filiale pharmaceutique. Donc, comme toujours, Monsanto qui fait en sorte d'appâter des personnes assez haut placées pour toujours faire tourner sa boîte. Et c'est sa stratégie, clairement. Donc, justement, à présent, on peut faire un point sur le poids de Monsanto actuel dans la politique agricole aux États-Unis. On pourra parler de l'Europe aussi après. Alors pourquoi aux États-Unis? Parce que déjà en 2013, donc on va s'y prendre récemment, hein. Allons pas trop loin. En 2013, c'est les États-Unis qui ont glissé discrètement un nouvel amendement dans une loi budgétaire sur l'agriculture, ni vu ni connu un petit peu. Il s'est appelé le Monsanto Act, d'ailleurs que les opposants ils ont appelé le Monsanto Protection Act, puisque cette loi empêche la justice américaine de pouvoir s'opposer à la mise en culture de plantes génétiquement modifiées, même après quelconque procès. Donc elle donne le dernier mot au ministère de l'Agriculture sans prendre en considération les décisions de la justice. Et après être votée au Congrès, le seul moyen d'empêcher sa mise en application, c'était justement un veto présidentiel. Seulement, quelques temps après, elle a été signée par Barack Obama. Ça allait aussi dans sa stratégie, hein, dans toute sa stratégie de présidentielle, mais il était amené à la voter, quoi. C'est ce qui a signifié au final une adoption finale et définitive de cette loi du Monsanto Act. Et à cette période-là, le sénateur Blunt, ça a été un des plus grands fervents de ce nouvel amendement. À noter aussi qu'il a reçu de la part de Monsanto plus de $64,000 pour ses campagnes électorales entre 2009 et 2012. Et en tout, depuis le début de sa carrière, en 1989, ce sénateur a reçu $83,250 de Monsanto, mais aussi de la part de groupes de lobby proches des industries de biotech. Par exemple, il a reçu aussi depuis 1989 près de $1,5 million de la part d'entreprises liées à l'agrobusiness et $1,6 million de la part d'agences de lobby ou de conseillers juridiques. Excusez-moi encore. À titre indicatif aussi, Monsanto, de son côté, au cours de la dernière élection, là, il a financé 55 députés et 24 sénateurs pour un montant total de €316,000. Donc ça reflète toujours la domination de l'argent de la part de Monsanto pour appâter ses grandes personnalités pour aller dans son sens. Et ils réussissent plutôt bien. Car comme on peut le voir à l'Europe maintenant, il y a cette grande polémique à propos du TAFTA. Donc ça, c'est en cours de négociation. Et Pierrot, il va nous en parler dans deux petites minutes. Et je vais vous parler de, en janvier 2015, l'Union européenne, elle a modifié son règlement pour faire en sorte que l'autorisation des cultures de OGM soit renationalisée. C'est-à-dire que, en gros, que chaque État sera libre de choisir ou non les OGM, de les adopter. Donc, supprimant ainsi toute loi protectionnelle qu'il y avait au sein de l'Union européenne, en fait. Une loi qui était assez globale. Donc, au final, cet amendement, c'est une manière de contourner l'opposition des 19 États européens aux OGM, qui étaient contre les OGM, qui ne voulaient pas les adopter. Et là, ils ont tous le choix nationalement de les adopter ou pas. Ensuite, le 22 avril, il y a eu la commission qui a modifié son règlement sur les autorisations de consommation humaine et animale. Et deux jours plus tard, le président de la Commission européenne, qui s'appelle Jean-Claude Juncker, il a annoncé l'autorisation à la vente et à la consommation de 19 nouveaux OGM, dont 11 de Monsanto. Donc, entre autres, du colza, du soja, du maïs et du coton. Et ces autorisations étaient en suspens, en fait, car les États membres n'étaient pas parvenus à constituer une majorité pour ou contre leur commercialisation. Sauf que justement, avec ce nouveau amendement, cette nouvelle modification dans le règlement, l'autorisation est maintenant immédiate et vaut pour 10 ans. Et encore une fois, Monsanto a ce qu'il veut et l'Europe agit pour ce coup-là en son intérêt.
D'accord, d'accord. Donc ça, c'était sur le point actuel de Monsanto aux États-Unis et en Europe. Point actuel, mais ça pourrait bien s'empirer. Monsanto pourrait bien avoir plus de pouvoir, car je rappelle que le grand traité transatlantique entre les États-Unis et l'Europe, le TAFTA, pourrait, s'il passe, augmenter le pouvoir et la marge de manœuvre de Monsanto et de d'autres grandes multinationales. Eh bien, pourquoi ? Parce que avec ce traité, les entreprises auront plus de droits. Par exemple, toute entreprise américaine ou autre qui investit en Europe pourra réclamer des dédommagements financiers aux États membres si ces derniers votent des nouvelles lois ou normes dites contraignantes. Alors, contraignantes, ça veut dire qu'ils porteraient atteinte au profit envisagé de l'entreprise. Alors, cela existe déjà dans d'autres pays. Pour vous donner des exemples de ce que seraient ces dédommagements financiers, par exemple, au Canada, une multinationale qui s'appelle Lonepin, qui est experte dans l'exploitation de gaz de schiste, a obtenu le droit par un tribunal de demander 250 millions de dollars de réparation à l'État fédéral du Canada. Tout cela parce que le Québec venait de mettre en place un moratoire sur la fracturation hydraulique. Voilà, donc un moratoire, ça veut dire une suspension, en fait, une suspension des activités de fracturation hydraulique, ce qui allait bien sûr à l'encontre des intérêts de la multinationale. Donc voilà, donc avec Monsanto, ça pourrait être exactement la même chose en Europe, en France, en Belgique, dans tous les États membres. Si TAFTA passe, voilà, c'est ça. Il y aura des dédommagements financiers de la part des États. Si ces États votent des lois dites contraignantes, donc nuisant aux intérêts de ces entreprises, au profit de ces entreprises. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on peut dire, c'est que l'Union européenne a déjà dû verser des pénalités, des centaines de millions d'euros de pénalités à l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, et cela parce qu'elle a refusé d'importer les OGM. Malgré ça, c'est quand même pas pareil que si le TAFTA passe, parce que si TAFTA passe, ce seront les multinationales en leur nom, elles-mêmes qui pourront condamner les États. Avec des tribunaux spéciaux, des tribunaux indépendants qui seront créés spécialement pour arbitrer ce type de litige. Et quand on sait qu'en Europe, il y a 75 000 entreprises et filiales américaines, avec le TAFTA, toutes ces entreprises seront sûrement nombreuses à essayer d'extorquer, parce que c'est ça finalement, hein, c'est de l'extorsion, hein, à essayer d'extorquer légalement le budget des pays de l'Union européenne. Et donc, il y a très peu de chances que les dernières législations en vigueur concernant l'exploitation du gaz de schiste ou la vente d'OGM tiennent le coup. On l'a vu, Raphaël nous a un peu expliqué le changement de position un petit peu soudain de l'Union européenne ces derniers mois par rapport aux OGM. Mais bon, la partie n'est pas terminée puisque le traité n'est pas passé encore finalement. La Commission européenne n'a pas signé définitivement le traité, elle devrait le signer le 10 juin. Et avant ça, il doit être ratifié par tous les parlements nationaux. Et surtout, les négociations finales, parce qu'il y a toujours plein d'étapes, bon, c'est impossible de tout comprendre et de tout décrypter, toutes les étapes avant que ce soit complètement appliqué, mais les négociations finales seront bouclées qu'en 2016, normalement. Donc, il est encore plus que jamais le temps de se mobiliser, de faire du lobbying auprès des élus. Donc, vous pouvez par exemple signer la pétition contre le TAFTA. Et pour cela, il faut se rendre sur le site www.collectifstoptafta.org, tout attaché. Donc c'est facile, hein, collectifstoptafta, tout attaché, c'est le site. Et cette pétition peut réellement avoir un impact, je pense, puisqu'il y a presque 2 millions de signatures déjà. Donc voilà, c'est pas rien, 2 millions. Et il est également possible de rejoindre des collectifs Stop TAFTA locaux, d'assister ponctuellement à des conférences, ou même de faire voter des motions hors TAFTA aux collectivités locales, des motions hors TAFTA. Donc ça veut dire que la collectivité, la zone va se déclarer hors TAFTA. Et des dizaines de régions, départements et communes en France l'ont déjà fait. Elles se sont déclarées hors TAFTA, hors zone TAFTA, et dont le premier arrondissement de Lyon, où nous nous trouvons actuellement. Voilà, donc c'était l'édition, un petit peu la petite partie édition spéciale Monsanto. Et maintenant, on va passer à la deuxième partie de ce Canu Info, où on va justement parler avec avec maîtresse Gilda, qui est porte-parole du STRAS, donc le syndicat des travailleurs du sexe, car il y a à Lyon, donc le 3 juin, donc très très bientôt, la rencontre internationale des travailleuses du sexe. Ça va se tenir ici même dans cette ville, et donc les organisateurs qui sont en ce moment à Paris n'ont pas pu se rendre directement dans les locaux de Radio Canu, mais on a pu les avoir au téléphone, et normalement Madame Gilda est en ligne, donc je vais essayer de l'avoir en appuyant sur ce bouton et la magie. Allô Gilda?
Oui, bonsoir, merci de me recevoir.
Et ça marche, c'est super. Merci à vous d'être, de nous accorder cet entretien.
Alors, je vous entends extrêmement faiblement.
D'accord, on va essayer de régler tout ça rapidement. Vous m'entendez extrêmement bas, c'est ça? Et là,
oui,
est-ce que
voilà.
C'est mieux? Là, est-ce que c'est plus fort?
C'est à peine mieux.
Et là, est-ce que c'est un petit peu mieux encore?
C'est un petit peu mieux encore, oui.
Et si jamais je fais ça comme ça. Allô, allô, 1, 2, 1, 2. 3, 4.
Et là, ça commence à être pas mal du tout.
D'accord. Parce que ma voix sature à l'antenne. Est-ce que vous m'entendez toujours bien là? Allô?
À peu près, ouais.
À peu près? D'accord. Bon, bah, on va pouvoir commencer. Du coup, tout simplement, pour commencer, Gilda, qu'est-ce que sont les rencontres internationales des travailleuses du sexe en quelques mots? Quel est cet événement? En quoi il consiste?
Alors, tout d'abord, je voulais apporter une toute petite correction par rapport à la date. Donc, c'est ce week-end, donc dimanche 31 mai, lundi 1er et mardi 2 juin, qu'auront lieu les rencontres internationales donc des travailleurs du sexe, organisées par le STRAS, donc le syndicat du travail sexuel, et les alliés, les associations de santé communautaire, comme Cabiria, par exemple, qui est à Lyon, etc.
D'accord, très bien. Et donc, pourquoi vous avez organisé cet événement? En quoi?
Alors, pourquoi cet événement et pourquoi à Lyon? Parce que cette année, donc, on commémore en quelque sorte les 40 ans de ce qui aura été un petit peu le début des luttes pour les droits des travailleurs du sexe en France, avec donc en 1975 la première révolte et grève des prostituées qui s'était achevée par une occupation donc de l'église Saint-Nizier, qui a duré plusieurs jours et qui a mobilisé à la fois l'opinion publique et les médias un petit peu du monde entier. Donc ça a été ça a eu un retentissement assez considérable, puisque 40 ans après on en parle encore. Et c'était déjà à l'époque, comme quoi il n'y a pas grand chose qui a changé, c'était déjà à l'époque principalement pour se révolter contre les abus policiers, le harcèlement et la répression en fait policière qui frappe toujours d'ailleurs assez durement les travailleuses du sexe, et principalement les travailleuses du sexe donc de rue, mais qui aujourd'hui 40 ans après finalement n'a pas vraiment changé. La répression est toujours aussi forte, les moyens de pression et ce qui se prépare aussi au niveau législatif ne nous laisse pas présager d'un avenir très rose. Donc c'est pour ça qu'on se mobilise et qu'on organise ces rencontres, entre autres. Ouais.
D'accord.
Et quels seraient les types d'événements en fait que vous allez organiser au sein de cette rencontre, ou s'il y a un programme spécial?
Alors oui, il y a un programme que vous pouvez trouver sur le site du STRAS, donc www.stras-syndicat.org. Donc là, vous avez le programme de ces 3 jours, donc qui s'organise autour d'ateliers, donc avec différents thèmes qui ont été élaborés donc par la suite d'un appel à contribution en fait auprès de toutes nos consoeurs et confrères travailleurs et travailleuses du sexe. Donc les thèmes ont été définis ces dernières semaines, ces derniers mois. On commence par une plénière, donc une séance plénière inaugurale pour parler des situations locales donc au niveau international, local et international en fait, parce qu'on fera un focus sur les endroits, les zones où la situation est la plus compliquée et où elle demande une mobilisation plus urgente. Je pense notamment à ce qui se passe en ce moment dans le quartier de Belleville à Paris et qui frappe les travailleuses du sexe chinoises qui subissent un véritable harcèlement permanent de la part de la police qui fait tout pour les empêcher de travailler en fait et pour les chasser et qui ne les arrête pas mais qui les contrôle plusieurs fois, qui les menace, qui déchire leur photocopie de papier d'identité par exemple pour ensuite pouvoir les recontrôler et dire qu'elles n'ont pas de papier et donc les mettre en garde à vue. Enfin, il y a vraiment une espèce d'acharnement depuis quelques jours qui est précisément à cet endroit-là. Mais c'est pas le seul, hélas. Nos copines de Gerland aussi, donc le quartier de Lyon, savent aussi ce qu'il en est de la répression quand il y a une volonté en fait et des consignes qui sont données pour nettoyer entre guillemets les quartiers et faire place nette. On sait ce qu'il en est et on voit les résultats que ça apporte. Donc,
D'accord. Du coup, si on fait un petit point sur les différentes lois qui encadrent, pour ne pas dire qui organisent la répression, une répression envers cette activité, qu'est-ce que ça donne? Quelle loi existante et quel décret envers la profession, l'activité?
Alors, je vais vous demander de répéter parce que je vous entends quasiment pas en fait.
Vous entendez quasiment pas, toujours pas?
Très faiblement.
Béton. Pourtant, vous entendez bien ma collègue, c'est ça?
À peu près, j'ai deviné un peu les questions.
Là, vous m'entendez mieux ou pas? Allô, allô?
Ça va, ouais, c'est un peu mieux.
Bon. Alors, ma question, c'était donc de savoir quelle loi il y avait par rapport à l'activité, à la profession, je ne sais pas comment on peut considérer ça, de travailleurs, travailleuses du sexe.
Mais en fait, les lois, clairement, il n'y a pas de loi pour interdire la prostitution. Je rappelle que c'est une activité parfaitement légale et qui fait l'objet de perceptions de nos revenus par le trésor public. Mais en réalité, c'est tout ce qui est autour, en fait, qui nous empêche de travailler, que ce soit des lois nationales ou des arrêtés municipaux, comme c'est le cas, par exemple, à Lyon, justement, je crois qu'on en est au 8e arrêté municipal contre les camionnettes, alors que ce soit le stationnement, la circulation des camionnettes de nos camarades qui travaillent du côté de Gerland. Il y a une volonté, non pas d'interdire la prostitution purement et simplement, puisque ça personne n'ose plus ou moins le faire depuis des décennies, mais en revanche, tout ce qui peut contribuer à nous rendre la vie impossible, à nous empêcher de travailler, à nous empêcher d'être dans une situation de sécurité, toutes ces mesures-là, tous les moyens sont bons pour nous empêcher de nous organiser. Par exemple, le fait de se regrouper, par exemple, pour travailler à plusieurs dans un seul et même lieu, c'est impossible parce que c'est considéré par la loi comme du proxénétisme.
D'accord.
Le fait de, par exemple, de faire la... Ah oui, il nous est interdit aussi, par exemple, de faire la promotion de notre activité. Donc il y a aussi une chasse aux sorcières pour nous empêcher de passer des annonces, par exemple, sur Internet ou anciennement, pour celles et ceux qui ont connu, sur Minitel, c'était un peu le même principe.
Ok. D'accord. Donc ouais, tout ça qui vous empêche de travailler correctement, quoi. Et sinon, est-ce qu'on peut dire qu'il y a assez de prévention d'associations ou même de la part de l'État par rapport aux différentes maladies, comme le SIDA, maladies sexuellement transmissibles, auprès des travailleurs du sexe? Parce que voilà, je pense que vous faites toute cette activité un petit peu différemment, enfin s'organiser selon, il n'y a pas toujours toutes les filles qui sont syndiquées, je veux dire, etc. Donc est-ce qu'il y a toutes les prostituées qui sont suffisamment informées là-dessus, et est-ce qu'il y a suffisamment de prévention et de moyens mis en place
Mais justement, sur le sujet, alors j'ai pas entendu toute la phrase, mais je devine un peu votre question. En l'occurrence, pour ce qui s'agit de la prévention du VIH et des IST, MST, je rappelle que parmi les premières à s'être organisées pour la prévention et pour justement distribuer du matériel de prévention et de réduction des risques, c'est les associations de santé communautaire de travailleuses du sexe, donc notamment Cabiria, qui existe depuis le début des années 90, donc au plus fort de l'épidémie de VIH, depuis très longtemps, j'allais dire depuis toujours, mais oui, je pense que je peux dire ça, depuis toujours, les travailleuses du sexe ont été les premières actrices de prévention en matière de santé publique et de réduction des risques liés au sexe. Je prends un exemple tout simple, on parle beaucoup de modèles suédois, de modèles allemands, etc., on parle de tout et de n'importe quoi. Il y a un modèle dont on ne parle pas et qui est pourtant super intéressant dans cette optique de santé publique et pour les résultats que ça a eu, c'est l'État de Nouvelle-Galles du Sud qui se trouve en Australie, qui a légalisé la prostitution et qui autorise donc l'organisation, etc. Enfin, c'est un pays qui a légiféré de manière à ce que les travailleuses du sexe puissent travailler de manière en coopérative, en fait. Donc avec un vrai statut de travailleuse, etc. Et en matière de prévention, donc depuis une vingtaine d'années que ça existe, le nombre de contaminations, VIH entre clients et prostituées, prostituées et clients, est tout simplement de zéro.
Ah ouais,
c'est-à-dire que la prévention a tellement bien marché qu'il n'y a eu aucune contamination au VIH et aux IST depuis quasiment 20 ans que la législation est allée dans le sens de ce que réclament les travailleuses du sexe.
Et ça, est-ce que toi, est-ce que vous avez l'impression que c'est quelque chose qui n'est pas du tout su, quoi, que les gens ils pensent vraiment à l'inverse, quoi, au contraire que c'est un métier.
Oui, parce qu'on hérite aussi de cet état d'esprit de la fin du 19e siècle et du début du 20e qui était un esprit qui était un esprit d'hygiéniste, hein, des médecins comme Parent du Châtelet, etc. avaient une visée hygiéniste et bourgeoise, en fait. Pourquoi est-ce qu'on a voulu et on a expérimenté la réglementation par l'État de la prostitution en France, donc à la fin du 19e et au début du 20e, c'était pour, en gros, protéger le bourgeois qui allait s'encanailler au bordel, et c'était pour éviter qu'il contracte la syphilis à l'époque, et donc qu'il prenne un risque sur sa capacité de se reproduire. C'était ça, la volonté qui... Alors, évidemment, ça a été un échec total. Ça a été aussi une situation et une organisation qui était absolument insoutenable. C'était une réglementation qui était réglementée par l'État avec un contrôle sanitaire et social permanent et policier. Et il y avait une espèce de double peine qui faisait que les prostituées qui étaient dans les maisons closes, elles étaient doublement taxées, entre guillemets, c'est-à-dire qu'elles travaillaient pour un patron ou une patronne de bordel, et en plus, elles avaient un macro à l'extérieur, et en plus, elles devaient graisser la patte aux flics pour pas se retrouver à Saint-Lazare, qui était l'hôpital, enfin la prison, puis l'hôpital pour femmes. Donc évidemment les situations ont évolué, ont changé, et depuis qu'on a fermé les maisons closes, les seuls véritables acteurs de terrain à s'être intéressés de la question des IST et du VIH, bah, ça a été les associations de santé communautaire et les associations de lutte contre le sida. Mais l'État s'est totalement désintéressé de cette question, c'est sûr.
Et est-ce que vous avez l'impression d'être bien perçu au sein de la société en général ?
Je pense pas que a priori, c'est un peu c'est not in my backyard, comme disent nos amis britanniques. C'est-à-dire que globalement, l'opinion publique n'a pas d'hostilité particulière à notre endroit, pour peu qu'on soit pas en train de tapiner en bas de chez eux, quoi. C'est toujours ça. Oui, évidemment, on retombe sur le cliché de personne ne voudrait que sa fille fasse ce métier. Donc on a encore pas mal d'idées reçues qui ont la peau dure, mais globalement je pense pas que Moi, je pense pas que les citoyennes et les citoyens, à part ceux qui s'organisent en comité de riverains pour nous chasser de leur quartier, je pense pas que globalement, sur les millions d'habitants de ce pays, je pense pas qu'ils sont tous particulièrement hostiles. Mais c'est vrai qu'il y a une... il y a à la fois une méconnaissance. Enfin, c'est vrai que c'est un sujet qui à la fois brasse des fantasmes, des idées reçues. On est à la fois un support de fantasmes et d'attraction-répulsion, en fait. Donc c'est assez compliqué à gérer.
Bien sûr. Mais alors.
Mais globalement, je pense pas. Enfin, je suis peut-être optimiste, mais je pense pas que les citoyens soient particulièrement hostiles à notre existence.
D'accord.
Il y en a, oui, bien sûr.
D'accord, d'accord. Mais alors, quelles seraient vos revendications pour améliorer votre profession et le statut que vous avez au sein de cette activité?
Voilà, face à tous ces problèmes que vous nous avez exposés, quelles seraient du coup vos revendications globales pour améliorer tout ça?
Alors, dans l'ordre des choses, l'urgence, c'est vraiment de cesser de mettre fin à la répression policière qui s'exerce de manière directe sur la prostitution de rue. Donc, qu'on abroge la loi sur le racolage passif, donc qui est une loi absurde et injuste qui nous frappe depuis 2003 et qui permet, alors évidemment, même si les poursuites ne sont pas forcément fréquentes parce que les magistrats suivent pas obligatoirement ce texte-là, le problème c'est que ça donne tout pouvoir à la police, donc un pouvoir totalement arbitraire, d'arrêter, de mettre en garde à vue et de nous empêcher de travailler. Donc c'est vraiment la répression directe liée à cette loi, donc qui pénalise le racolage passif, et à tous les arrêtés municipaux qui frappent des villes comme Lyon, comme Toulouse, comme Paris, à côté de Lille, une ville qui s'appelle la Madeleine, où là ils ont aussi interdit la circulation et carrément l'accès à l'espace public aux prostituées. Donc vraiment l'urgence c'est de stopper net toutes ces dispositions répressives directes, et ensuite d'abandonner cette volonté absurde de vouloir s'en prendre à nos clients. Parce qu'une fois de plus, c'est pas le sort des clients en tant que tels qui nous inquiète, c'est tout simplement les conséquences sur nos vies et nos moyens d'exister qui en découlent. Donc l'espèce d'escroquerie qui consiste à dire « Ah, mais on n'a rien contre les personnes prostituées, on veut juste s'en prendre à leurs clients pour les empêcher de travailler », bah non, en fait, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce que les clients trouveront de toute façon toujours un moyen d'accéder à un service sexuel d'une manière ou d'une autre. Et nous, on aura juste plus de difficultés à travailler et on travaillera juste dans de plus mauvaises conditions et avec des moyens plus faibles. Et donc forcément, bah oui, des conditions de vie dégradées.
D'accord. Et après, il y a une question qui tourlupine, je pense, beaucoup de monde et qui me tourlupine aussi. Et vous, vu que vous êtes en permanence, que vous êtes vous-même travailleuse du sexe en permanence avec d'autres travailleuses du sexe, est-ce qu'on peut vraiment choisir de faire ce métier? Et je pense que oui, mais
dans en ce fait, cas, la question du choix, elle me semble pas, elle me paraît pas pertinente, parce que pourquoi elle nous serait exclusive? Je sais pas pourquoi vous n'allez pas dans le métro à 7h du matin demander aux gens s'ils vont au boulot par choix et s'ils ont vraiment choisi d'aller bosser et s'ils le font par plaisir. La question du choix, elle est évidemment liée à la situation économique. Je connais assez peu de personnes, quel que soit leur boulot, qui vont travailler juste pour le plaisir de travailler. Non, on travaille parce qu'on a un loyer à payer, des enfants à élever, un frigo à remplir. La question de choix, elle est pas utile au débat. Parce que de toute façon elle est biaisée. On n'a pas le choix, on vit dans une société où il faut gagner de l'argent pour vivre. Qu'on fasse ce métier-là ou un autre, de toute façon, on a un choix qui est relativement contraint. Donc on a aussi une situation qui fait que beaucoup de personnes n'ont pas forcément le choix au départ. Et donc se retrouvent dans cette situation et ensuite ont toutes les difficultés effectivement à passer à autre chose, à se réorienter. Donc ça aussi, tout ce qui est de nature à nous réprimer par conséquent, complique encore plus aussi la possibilité de se réorienter et de changer d'activité.
Bien sûr, c'est pas la répression qui peut aider à ça. Je suis bien.
Et je vois pas en quoi on aiderait d'accord. une personne en s'en prenant à ses clients et donc en diminuant ses revenus. Ça ne marche pas.
Bien sûr. En s'en prenant à elle aussi, d'ailleurs. La personne.
Oui, non plus. Qu'on s'en prenne à nous directement ou à nos clients, de toute façon, c'est pas la solution et ça ne rendra pas service à celles et ceux qui ont besoin et envie de changer d'activité et de faire autre chose.
D'accord. Ah, très bien. Bon, en tout cas, c'était très intéressant. Merci beaucoup, Gilda. Et puis bonne rencontre internationale des travailleuses du sexe ce week-end.
Alors merci, je compte sur vous. Vous pouvez participer à la conférence de presse donc le 2 juin qui sera vers 12h30 et à la manifestation bien sûr qui partira de 14h de la place Saint-Nizier donc dans le deuxième arrondissement.
D'accord. D'autres. Est-ce que vous pouvez rappeler où trouver le programme des rencontres?
Alors le programme, vous le trouvez sur le site du STRAS, donc www.stras-syndicat.org et vous allez voir apparaître dès la première page le programme.
Très bien. Merci beaucoup Gilda, merci.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Au revoir.
Bonne rencontre.
À très bientôt, au revoir.
À bientôt. Et voilà, c'était donc Gilda qui nous a parlé de ces rencontres. Je vous invite à y aller faire un tour hein, si vous êtes intéressé ou même juste un petit peu curieux à propos de ça. Et puis on va continuer un petit peu sur les sorties à faire ce week-end. On n'en a pas trop trouvé, mais la semaine prochaine, il y a plein de choses que vous pouvez faire sur Lyon. Et donc comme chaque vendredi, on vous informe.
On fait notre petit agenda culturel. Alors, déjà la semaine prochaine, il y a le collectif ZAD qui vous invite tous ce mardi, c'est ce mardi-là, là, à la soirée qui s'appelle Bilan des ZAD. C'est une occasion à tous et à toutes de faire un point sur les luttes avec occupation contre les grands projets inutiles et nuisibles. Donc entre autres parler de Sivens, Notre-Dame-des-Landes, du TGV Lyon-Turin, mais aussi de Chambaran. Donc ça, ce sera à 17h. Vous êtes conviés à l'apéro pour 17h. Enfin, ou juste boire un petit coup. À 18h, à venir voir des vidéos des ZAD. À 19h, participer au débat sur le thème de quel avenir pour les ZAD. Et à venir danser à 21h tous ensemble. Alors pour ça, rendez-vous mardi 2 juin, du coup, au cul-de-sac à Lyon, à Villeurbanne. Et pour plus de renseignements sur son lieu précis, allez directement sur le site rebellion.info. Ensuite, alors ça c'était pour le mardi, pour le mercredi, il se tiendra aussi une assemblée pour organiser la grande marche contre le TGV Lyon-Turin. Grande marche qui va se dérouler du 30 au 12 juillet. Alors ce sera de Chimilin au Val de Susa. Je vous invite à y aller. Ce sera à Lyon à 18h. Donc cette assemblée elle se tiendra à la librairie La Griffe qui est au rue Sébastien Griffe. Dans le Lyon 7e, donc librairie La Griffe, rue Sébastien Griffe, Lyon 7e. Voilà. Et ensuite, toute la semaine prochaine, c'est la semaine antiraciste et antifasciste à Lyon. Donc elle est organisée par la CLAF, c'est la campagne libertaire antifasciste, elle-même composée de 4 organisations membres, donc Alternative Libertaire, Confédération Nationale du Travail, la Coordination des Groupes Anarchistes et la Fédération Anarchiste. Donc au programme, plusieurs événements sont prévus. Le mercredi... Donc mercredi 3 juin, il y aura l'émission qui s'appelle Idées Noires, une émission spéciale organisée par la CLAF de 20h à 21h sur Radio Canus, 102.2 FM, la plus rebelle des radios. Le jeudi 4 juin, à partir de 19h, il y aura une discussion au local de la CNT qui se trouve au 44 rue Bardot dans le 1er arrondissement. Discussion donc sur la thématique de antifascisme et immigration. Donc petit débat qui sera suivi d'un apéro. Et alors ensuite le vendredi brièvement, donc il y aura une table de presse de la CLAF au festival Bouger ses tripes. J'en reparlerai un tout petit peu après. Samedi 6 juin, il y aura une présentation et intervention de la CLAF lors des discussions à ce festival. Voilà. Et donc à propos de ce festival Buge et ses tripes, c'est un bon festival culturel et bien enragé en perspective. Il va se tenir du 5 au 6 juin à Trécharavoie à Cormaranche en Bugé dans l'Ain. Bon, à mon avis, écrivez sur internet si vous êtes intéressé. Buge et ses tripes, c'est B-U-G-E-Y, plus loin C, plus loin T-R-I-P, comme trip. Voilà, alors au programme entre autres de ce festival, ce sera des concerts comme les Tontons Swingers, c'est du jazz manouche, ou les Vaches Laitières, ça c'est plus du ska punk, ou même Arba, ça c'est plus du afrobeat toute trans. Il y aura deux scènes à ce festival, donc une punk, une électro. Et quant aux après-midi, elles vont tourner autour du thème autonomie des luttes et actions directes. Donc il y aura la présentation des organisations et des luttes en cours, avec des tables de presse et des stands d'information. Mais il y aura aussi une conférence de Daniel Colson sur son ouvrage Syndicalisme révolutionnaire et projet libertaire. Donc je vous invite à y aller. Et pour finir, le samedi 6 juin donc prochain, à 18h à la Plume Noire, il y aura la présentation du livre « Ce qu'on dit des Roms et ce qu'il faut savoir » avec la présence de son auteur Jean-Pierre Dacheux. Donc ça, c'est le 6 juin à 18h à la Plume Noire, Plume Noire qui est au 8 rue Diderot à Lyon.
Merci beaucoup Raphaël. Eh bien, c'est la fin de ce Canu Info, il est 20h, je vous laisse avec Noise Pollution. Bon week-end.
Bon week-end à vous, ciao.
Ciao.